Aujourd'hui, je vous invite à parler du thème qui est là devant vous, Jésus est juste, tiré de 1 Jean 2, versets 1 à 6. Et moi, je me charge en ce moment de serrer des prédications sur 1 Jean. Et vu le monde qui est là et de nouvelles personnes qui n'ont pas aussi écouté mes premières prédications, c'est peut-être l'occasion aussi de rappeler pourquoi ce texte. Donc, l'épître de Jean a été écrit donc par Jean et était destiné à des chrétiens qui, à cette époque, étaient en proie à des hérésies, en fait, des enseignements qui allaient à l'encontre de ce que Jésus lui-même il avait enseigné. Et parmi ces enseignements, il y en avait de ceux qui allaient jusqu'à nier la divinité de Jésus, ou encore qui niaient son humanité. Mais dissocier les deux ferait que le message de la Bible et le message que Jésus nous a donné ne serait plus identique. Donc, l'apôtre Jean va s'atteler, en tout cas dans cet épître, à conforter les chrétiens dans le socle de la bonne nouvelle qu'ils ont entendue, l'enseignement reçu de Jésus-Christ, et éviter que ceux-ci ne se perdent. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vous invite à lire à 1 Jean 2, les versets 1 à 6. Je lis dans la version 51. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui il a vécu. Voilà où s'arrête notre texte. Et l'apôtre Jean dit dans la première phrase de notre texte, le but de son épître, c'est éviter que les chrétiens ne pêchent. Éviter que les chrétiens ne pêchent. Qu'ils ne banalisent pas le péché, comme voudraient le faire croire ces enseignements hérétiques qui prétendaient, entre autres, et à tort surtout, que du fait de leur haute spiritualité, mais que le péché n'entravait pas leur relation avec Dieu, leur communion avec Dieu. C'est comme si le péché perlait sur eux. C'est comme si vous avez un parapluie et à l'eau qui tombe sur vous et vous n'êtes pas du tout mouillé. Et prétendons également que le péché n'affecte pas l'âme. Donc, encore une fois de plus, leur relation avec Dieu. Et l'apôtre Jean, s'est attelé à démontrer et à rappeler combien le péché est toxique à la relation du chrétien avec Dieu, qui est saint, dépourvu de tout péché. Dieu est lumière, c'est le thème de ma dernière prédication. Et la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Dieu a le péché en horreur, et tout péché mérite justice, c'est-à-dire la condamnation. Mais Jean ne déclare pas que le chrétien ne pèche pas, qui n'offense pas Dieu, loin de là. Jésus-Christ, le juste prix. Versets 1 à 2, que je relis. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il nous a rappelé là que si le chrétien pêche, il n'est pas perdu. Ça peut arriver que le chrétien pêche, mais il n'est pas perdu. Pourquoi? Il a auprès du Père, Dieu, un défenseur qui plaide sa cause. Et s'il y a plaidoirie, vous serez d'accord avec moi, il y a un jugement. Il est donc important de revenir peut-être à l'origine et au début de notre histoire dans le premier livre de la Bible, la Genèse. On y apprend comment Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et en tant que créateur, Dieu est donc, en quelque sorte, législateur, celui qui fixe les règles. Autant pour la nature que nous voyons, que pour l'homme. Vous conviendrez que c'est bien Dieu qui a donné la durée du jour. C'est bien Dieu qui a dicté la durée de la nuit. Dieu est le législateur. Mais l'homme a désobéi à Dieu, faisant entrer ainsi le péché dans l'humanité. Et comme Jean l'a clamé, en tout cas dans le premier chapitre, Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime l'homme. C'est pourquoi il a pourvu au moyen de salut, au moyen de réconcilier l'homme avec lui. Jésus-Christ est ce moyen. C'est le défenseur dans le système juridique de Dieu. Il plaide la cause du chrétien contre l'accusateur Satan devant Dieu le Père. Par le texte, nous pouvons déduire quelques particularités de ce défenseur, Jésus. Il siège auprès du Père, nous dit-on. Il plaide auprès du Père. Donc, il est à côté du Père, mais qui est trois fois saint et qui ne peut cohabiter avec le péché. Jésus est saint lui aussi. C'est ce qu'on peut en tout cas en déduire, et ce qui est vrai. Et cette sainteté de Jésus n'est pas périodique. Elle ne dépend pas de circonstances. Elle est permanente, tout comme celle de Dieu. Jésus est juste, tout comme Dieu est appelé juste dans le premier chapitre de 1 Jean, au verset 9. C'est-à-dire quant autre que Jésus tient ses promesses. Jésus est aussi la victime expiatoire. Et dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, Dieu avait donné aux Israélites un moyen de se faire pardonner leurs fautes, parce que Dieu a le péché en horreur. Et ce moyen, c'était offrir des sacrifices. Et cette pratique était une préfiguration de ce que Jésus allait accomplir plus tard à la croix. On trouve beaucoup de détails de ça, en tout cas dans Lévitique. Mais comment il procédait? Il y avait un souverain sacrificateur, un Lévite, consacré, qui offrait un sacrifice, qui était une offrande donnée par le pécheur, et cette offrande devait être pure, sans tache, pour être agréée par Dieu. Mais ce système avait des limites. Et parmi les limites, il y a déjà pour le sacrificateur, c'était un homme qui lui-même n'était pas épargné par le péché, puisqu'il est descendant d'Adam et Ève. Il devait offrir des sacrifices d'expiation pour ses propres péchés aussi. Et le sacrifice était perpétuel. C'était nécessaire de faire un sacrifice pour les péchés, pour avoir le pardon des péchés. Alors que dans la nouvelle alliance avec Jésus, comme souverain sacrificateur, il n'a pas besoin de présenter une offrande pour ses propres péchés, puisqu'il est Dieu et il est saint. En effet, contrairement au souverain sacrificateur, qui était un homme comme vous et moi, et qui est né de l'union d'une femme et d'un homme, Jésus n'est pas né ainsi. Jésus est Dieu. Matthieu 1, verset 18 nous dit que c'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus a été conçu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Voilà une grande différence entre le sacrificateur de l'ancienne alliance et Jésus-Christ. Et en plus d'être un souverain sacrificateur parfait, Jésus est lui-même aussi la victime expiatoire des péchés. C'est-à-dire que c'est lui-même qui se présente comme offrande à donner à Dieu pour obtenir le pardon des péchés. Nul besoin d'offrir des sacrifices perpétuels également. Un seul sacrifice a suffi, une bonne fois pour toutes. Le don de la vie et du sang de Jésus à la croix a satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu pour nous offrir le pardon des péchés. Jésus, dans sa plaidoirie en faveur de chrétiens, on peut l'imaginer, ne déploie pas un argumentaire pour nous disculper ou justifier nos actes dans notre système juridique. Ceux qui ont des moyens ou ceux qui peuvent s'approprier les services d'un avocat éminent peuvent être disculpés même malgré leur culpabilité. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus. Jésus, en tant que défenseur, ne se met pas à argumenter pour obtenir l'acquittement. Jésus, dans sa plaidoirie, met plutôt en avant son sacrifice parfait accompli à la croix pour payer le prix de nos péchés. C'est le juste prix auquel il n'y a rien à ajouter. C'est le juste prix auquel il n'y a rien à ajouter. On parle aussi dans notre société de grâce présidentielle qui existait encore il y a quelques années, même ici en France. Cette grâce est différente à la grâce salvatrice que Jésus-Christ offre. La première, la grâce du monde, n'a rien coûté au président et elle est spécifique à une seule condamnation. Celle qu'offre Jésus lui a coûté sa dignité et aussi sa vie à la croix, bien qu'il soit ressuscité. Et la grâce qu'offre Jésus, elle est valable aussi pour tous les péchés. Ce n'est pas seulement pour un seul péché. L'offre de Jésus est universelle. Elle ne concerne pas seulement une catégorie de personnes, mais toutes les nations du monde et chaque individu personnellement. C'est une offre qui est intemporelle, qui a par contre une date limite de validité. Vous êtes étonné peut-être quand j'ai dit ça. Je répète. L'offre de salut de Jésus est temporelle, est intemporelle, mais elle a une date limite de validité. C'est la fin de notre vie ou son retour. Mais cette offre, elle est encore valable aujourd'hui. Alors je vous exhorte. Donc, si vous n'avez pas encore accepté cette offre de Jésus, à la reconsidérer et à demander à Dieu de vous convaincre de votre égarement, de la nécessité de croire en Jésus et de déposer vos péchés au pied de la croix pour obtenir le salut. La foi juste se voit. Versets 3 à 4. 3, 4 et 6. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Verset 6. Celui qui affirme demeurant en Christ doit aussi vivre comme lui il a vécu. Ces versets nous rappellent combien ce que l'on déclare de notre bouche, ce que l'on confesse, doit refléter notre manière de vivre. Quelqu'un a dit, tes actes crient plus fort que tes paroles. Ce que nous confessons de notre bouche ne vaut pas plus que nos actes, au contraire. Garder le commandement de Christ est indispensable. Une fois de plus, Jean dénonce l'attitude de ceux qui prônent leur appartenance à Christ ou qui disent le connaître sans pour autant faire sa volonté, garder ses commandements. Ils sont appelés menteurs et il dit que la vérité n'est pas en eux. Ils se mentent à eux-mêmes et cette situation est dramatique. Tite également dénonce cette attitude et ces gens. Dans Tite 1, le verset 16, il est écrit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Ils se mentent à eux-mêmes. Et cette situation est dramatique, parce que dans cet état, Jésus n'est pas leur défenseur auprès du Père. Dieu regarde au cœur. Et Jésus a dit que notre amour pour lui doit se manifester par notre volonté à garder ses commandements. Jean 14, 21 dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Le mot « garder » exprime l'idée d'une obéissance vigilante et attentive. Comme je disais, Jean n'a pas dit dans sa épître, dans sa lettre, que le chrétien ne pécherait pas. Il peut arriver, en effet, que le chrétien ne pêche. Mais pour éviter cela, on peut veiller sur notre conduite. Le chrétien peut veiller sur sa conduite. Garder les commandements de Jésus. Pour ces chrétiens destinataires de la lettre de Jean qui subissaient des enseignements hérétiques, il était important de leur rappeler que ce qui est immuable et ce qui est digne de confiance, ce sont des commandements, l'enseignement donné par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la Bible, qui est la parole de Dieu, et notre vie doit s'y conformer pour pouvoir certifier notre appartenance à Christ. Et pour se conformer à cette parole, il faut déjà la connaître aussi. C'est cela, connaître Jésus, non pas de manière intellectuelle, la connaissance théorique, mais de manière personnelle, appliquer sa parole à notre vie. Quand on connaît intimement quelqu'un, on sait vraiment ce que cette personne aime, ce que cette personne déteste. Et on ne donnerait pas à quelqu'un qu'on aime ce qu'il déteste. Ce ne serait pas un signe d'amour, au contraire. L'Esprit Saint, qui est le défenseur, appelé à côté du chrétien, plaide la cause du Christ face à notre hostilité originelle, à notre nature humaine. C'est lui qui rappelle ce qu'a enseigné Jésus et modèle le chrétien pour devenir semblable à son maître. Et le chrétien n'est pas seul dans sa marche. Le concours d'autres chrétiens et est un atout considérable et indispensable. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et le chrétien n'est pas appelé à vivre sa foi de manière solitaire, mais en relation avec d'autres chrétiens. Comment on peut faire ça? Déjà par notre rassemblement aujourd'hui, le dimanche, mais bien plus, dans les groupes de maison, nous pouvons prier les uns pour les autres, échanger sur les épreuves, les échecs, les victoires que Dieu a permis dans nos vies, pour s'exhorter, s'encourager à la persévérance, se réconforter et dire notre reconnaissance à Dieu. Alors, si vous ne fréquentez pas un groupe de maison, je vous exhorte à en rejoindre un. Il y en a à Veneux, à Champagne-sur-Seine, à Nemours, à Alfortville, à Vulaines. Et ce sera en tout cas salutaire pour votre santé spirituelle, mais aussi pour celle des autres. Le chrétien aussi est appelé à s'inspirer de la vie de Jésus. Cela ne veut pas dire qu'on doit passer par les mêmes étapes que Jésus-Christ. Aller dans le désert après le baptême, non, ce n'est pas ce qui est demandé. Faire des miracles, oui, on peut en faire par son nom. Aller à la croix, non, ce n'est pas ce qui est demandé non plus. Je ne sais pas, comme vous êtes comme moi, vous vous étonnez aussi parfois de voir certaines personnes qui sont vraiment des fans de stars qui sont prêts à tout faire pour leur ressembler, même l'apparence physique. Ils vont jusqu'à faire des opérations chirurgicales pour ressembler à leurs idoles. Ce que caractérise la vie de Jésus, c'est son obéissance totale à Dieu durant tout son ministère. Il n'a pas hésité à se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 7, 8. Oui, notre ressemblance doit commencer par l'obéissance à Dieu, comme Jésus l'a fait. L'autre caractéristique de la vie de Jésus, c'est son amour pour son prochain. Quand on lit les évangiles, on voit combien Jésus a consacré du temps aux personnes démunies ou à son prochain tout simplement. Et ça aussi, c'est notre modèle. Alors, quel est notre témoignage autour de nous? Est-ce que nos valeurs chrétiennes se voient? Ou est-ce que nous nous fondons dans la masse au point qu'on ne distingue plus celui qui a des valeurs chrétiennes, celui qui est chrétien de celui qui ne l'est pas? On peut s'examiner en tout cas et en toute sincérité et demander à Dieu, à Jésus, de nous aider à être comme lui. L'amour juste de Dieu, verset 5, en quelques points. L'amour de Dieu est différent de l'amour que nous connaissons. Parce qu'avant que nous nous aimions Dieu, Dieu nous a aimés le premier et nous a manifesté son amour en donnant son Fils Jésus mourir à la croix. Dieu ne nous juge plus les péchés de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui croient sincèrement en lui. Jean, dans son évangile, au chapitre 5, verset 24, a écrit « en vérité, je vous le dis, Jésus qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alors, si vous avez mis votre confiance en Jésus, vous pouvez faire cette promesse qui est certaine. Dieu ne juge plus vos péchés. Dieu est saint et parfait et appelle ceux qui croient en Jésus ses enfants. Non pas enfants dans le sens de créature, parce que c'est Dieu qui a l'origine de toute créature et de toute la création, mais d'appartenance et de filiation. Car Jésus appelle les chrétiens, ses frères et des héritiers. L'amour de Dieu transforme également le chrétien à l'image de son maître. Ce n'est pas par ses propres forces que le chrétien se transforme, mais c'est par l'action de Dieu. Et une chose qui est importante, c'est que c'est Dieu, dans son amour, qui garantit le salut aux chrétiens. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens 1, le verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. » Voilà ce que fait l'amour de Dieu en nous. Et pour conclure, je voulais juste vous repartager cette illustration que j'ai utilisée la dernière fois. Et ça permettra aussi à ceux qui sont là pour la première fois de l'écouter. Qui m'a parlé à moi, en tout cas, c'est l'illustration de... Vous imaginez que vous vivez dans un royaume où la tenue originale ou la tenue traditionnelle, c'est une tenue noire. Et puis le roi de cette ville organise souvent des banquets. Et ce qui est demandé pour pouvoir participer au banquet, c'est une tenue toute blanche, immaculée, qui est sans tache. Et si vous savez que dans la ville, il y a une seule personne qui peut confectionner ce genre de tenue toute blanche et que vous voulez vraiment participer à la fête, je pense que vous courirez pour aller voir ce confectionnaire et vous lui demanderez de vous confectionner cette tenue. Et avec cette tenue, vous pourrez aller à la fête. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce roi qui organise ce banquet ne tolère aucune tache sur la tenue blanche. Et il n'a pas besoin de voir la tache blanche pour savoir si la tenue est sale. Il le ressent tout de suite, dès qu'il y a une tache sur la tenue. Et là, vous revenez de chez le confectionneur avec la tenue, vous allez à la fête bat son plein, et voilà qu'une tache tombe sur la tenue, et vous savez la sanction, ça sera la mise à la porte, parce que le roi ne tolère pas de tache sur la tunique. Et là, vous vous souvenez que vous avez entendu que le même confectionneur, il connaît aussi le secret de pouvoir enlever la tache sur la tenue. Et de nouveau, vous courirez vers ce confectionneur qui nettoiera votre tenue de sorte qu'elle devienne de nouveau immaculée et vous pourrez ainsi repartir à la fête. Ce roi, c'est Dieu et ce confectionneur, c'est Jésus. Et c'est ce que Jésus fait en tout cas. Au travers de sa mort et sa résurrection, il donne aux chrétiens le pardon de péché, non pas seulement une fois, mais toutefois, quand on met notre confiance en lui, et bien sûr, quand on ne pêche pas volontairement. Je vais finir juste avec Hébreux 4, qui nous parle un peu dans ce sens. Hébreux 4, le verset 14 à 15, qui dit... Hébreux 4, verset 14-15, qui dit « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Prions. Oui, Seigneur Jésus, c'est vrai que tu es juste, non pas juste parce que tu fais le bien, mais juste parce que tu tiens tes promesses. Tu es juste parce que tu as promis au Seigneur que ceux qui mettent leur confiance en toi auront la vie éternelle. Et nous croyons, Seigneur, en cette promesse et te prions, Père, que cette promesse soit au fond de notre cœur et qu'elle soit vraiment un rempart contre l'accusation du diable au Seigneur quand nous faiblissons et que nous puissions, Seigneur, mettre notre confiance et espérance en cette promesse et aussi en toi parce que tu as vaincu le monde, parce que tu as vaincu le diable, parce que tu as vaincu le péché et parce que, comme nous l'avons lu, notre salut est garanti en toi. Au nom de Jésus. Amen.